Ici Louis pour Erdiwa, je suis en compagnie de Brigitte Gardet et Isabelle Mounier, des Envolires, qui vont proposer au Théâtre des Airs dimanche 26 à 21h une lecture musicale à propos d'un texte d'une auteure russe, Marina Tsetaeva. Bonjour.
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 Alors d'abord, le texte s'appelle Sténographe de lettres.
Sténographe de lettres, en fait, c'est un terme qu'elle a employé. Elle aurait voulu qu'on mette ça sur sa tombe. Et c'est un montage de différents, à partir de différents textes. Donc là, c'est un texte qui est pas le sien dans sa continuité. Un montage à partir de plusieurs livres et plusieurs lettres ou plusieurs poèmes.
Et toujours sur le thème de l'être, alors contrairement à l'avoir, si j'ai bien compris.
Ouais. Ah ben oui, ça c'était son mot, être. Opposé à avoir. Ouais. Être, c'est l'âme, et avoir, c'est le monde matériel.
Donc elle essaye de sténographier, c'est-à-dire de mettre...
Mais parce qu'elle écrit tout le temps. Ah. Elle écrit de la correspondance, des lettres à des amis pendant 20 ans, à des poètes, à des auteurs, à des journalistes. Elle écrit. Et elle écrit des poèmes et des récits. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'écriture quasiment en permanence, sauf sur un temps, le temps de l'exil, où elle va avoir de moins en moins de temps d'écriture, mais elle aura déjà beaucoup écrit.
Qu'est-ce qu'une lecture musicale?
Alors, il y a plusieurs formes de lecture. Il y a la plus simple, c'est la lecture à voix nue, qui peut être très proche physiquement du texte ou assez interprétée. Donc ça dépend du texte, ça dépend aussi du comédien. La lecture musicale, c'est déjà une lecture avec un musicien. Donc pareil, soit le travail de texte et de voix du comédien est en retrait par rapport au texte, soit il est déjà interprété comme un travail de personnage. Là, il s'agit de ça parce que c'est une femme qui dit « je ». Donc là, c'est déjà un personnage qui parle, musical, parce que je suis accompagnée par une musicienne, Brigitte Gardet, au piano, qui fait un travail autour d'un compositeur du XXe siècle, Scriabine.
Et comment ça s'est fait, votre collaboration, alors? Comment ça s'est passé?
On s'est rencontrés dans la rue, par hasard. Non, on avait déjà travaillé ensemble sur un autre spectacle qui s'appelle C'est curieux. Tout autrement.
Voilà, c'était plutôt un travail dans le temps. Et là, moi, j'avais
plus
plutôt un travail d'improvisation, ouais. Composition. Voilà, on a vraiment travaillé dans la dentelle autour du texte.
Oui, de couture entre vraiment les mots et le son.
Alors que là, voilà, ça a été un parti pris dès le départ, à partir du moment où Isabelle m'a proposé le projet. Pour moi, c'était clair que je voulais jouer Scriabine. Voilà, de par l'écriture de ce compositeur, l'ambiance déjà et romantique et en même temps spirituelle qui collait tout à fait à la personne de Marina Tsvetaeva.
Est-ce que c'est un auteur russe aussi, Scriabine?
Voilà.
D'accord.
Qui est à peu près de la même époque, il est mort un peu plus tôt, mais voilà, ça correspond au niveau.
C'est-à-dire, en fait, la même époque, qui sont du début
donc,
du 20e
il est, voilà, début du 20e, enfin, un petit peu fin 19e, il est mort en 1915, relativement jeune.
Elle a connu sa femme. Elle n'a pas connu le compositeur, elle a connu la femme de Scriabine.
Donc, c'est du piano.
Là, bon,
oui, composition chose, piano.
Là, c'est piano. Oui.
Je crois que vous êtes dans le cadre du Festival Est-Ouest, donc là, encore une fois, ça se marie bien. Vous avez été approché par eux ou c'est vous qui leur avez proposé?
Non, j'ai fait une proposition. Cette auteure, je la lis depuis presque 10 ans et il y a 3-4 ans, j'ai vraiment flashé, on dit aujourd'hui, sur les lettres de la montagne et puis sur les lettres à Rilke. Et je me suis dit, il faudrait que je propose quelque chose quand même au Festival Est-Ouest. C'est une auteure russe, c'est une grande, elle a déjà été entendue ici. Et puis, voilà, donc ça tombait bien puisque c'était l'année de la Russie.
Est-ce que d'aventure on pourrait revenir sur le thème, parce que l'être est par opposition à avoir, et sténographe de l'être, moi je trouve que c'est un petit peu, pas antinomique, mais en tout cas l'essence même de l'être, c'est impalpable. Comment peut-on écrire
voilà,
sur l'être?
Fait. C'est vraiment ce dont elle parle en permanence. La sténographie, c'est une prise de notes rapide. On n'a pas le temps d'écrire les mots, donc on met des signes. Et donc c'est quelqu'un qui a l'écoute permanente de son intérieur, de l'âme, de l'être, du sien comme celui des autres, et qui prend réellement des notes de ça. Ces notes, sous forme de correspondance, ces correspondances sont des récits. On est entre poésie, philosophie, et sa poésie, donc, puisque c'est une poète avant tout, c'est quelque chose d'extrêmement contemporain. C'est du son avant d'être du sens, c'est du son en pensée. Elle le dit, bon, c'est une musicienne aussi, elle fait du piano très tôt, par obligation. Et elle a arrêté quand sa mère est décédée, elle devait avoir 14 ans. Et voilà, elle approchait les mots et le son avec autant de force. Et son approche poétique, c'est une approche très contemporaine, dans le sens que le son du mot a autant d'importance que le sens. Et c'est le son de ses vibrations intérieures, bien entendu.
Et dans quelle mesure, justement, ces pérégrinations intérieures très personnelles réussissent à intéresser d'autres personnes, alors?
Parce que quand on est proche de soi, on est forcément proche de l'autre, puisqu'on sait aujourd'hui que l'autre et soi, c'est la même chose. Donc en parlant réellement, c'est-à-dire pas en bavardant ou en communiquant, en parlant, on parle forcément à l'autre. On parle réellement à l'autre.
Donc c'est pas du déballage impudique comme on peut voir de nos jours?
Non, c'est pas du déballage impudique. Il y a des choses assez intimes, mais c'est réellement des choses profondes et hautes, et des choses toutes simples. C'est quelqu'un qui adore la vie, c'est quelqu'un qui vit à 150%. On se demande comment elle a fait pour écrire tout ça, sachant que parfois elle écrivait pendant une heure simplement, parce qu'elle avait aussi des enfants, c'était une période difficile, il fallait aller chercher à manger, faire la queue, faire les lessives, chercher du bois pour chauffer, etc. On est en présence de quelqu'un d'un peu exceptionnel, carrément exceptionnel, et très très touchant. Elle nous touche parce qu'elle touche en nous quelque chose qui est vraiment à l'intérieur, quoi, qui n'est pas en surface. Dans une simplicité, la correspondance est d'une simplicité à toute épreuve. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des raisonnements, on n'est pas dans du raisonnement, on est vraiment dans de la vie qui s'écrit. C'est pareil, elle dit d'ailleurs « vive écrire, écrire vivre ». C'est cohérent pour elle. C'est pas d'un côté il y a vivre, de l'autre côté il y a écrire. C'est sa vie. Et en même temps, elle dit aussi à un grand poète, Pasternak, qu'elle l'aime, qu'elle l'apprécie, parce qu'il est plus grand que son œuvre. L'homme avant tout. L'être humain avant tout. Avant l'œuvre.
Donc c'était pas quelqu'un qui était foncièrement différente donc, de ce qu'elle était, ce qu'elle révélait dans son écriture.
Tout à fait. Elle recherche toujours justement cette cohérence-là. Voilà, elle parle aussi, puisque dès qu'on parle de l'être, il y a des choses qu'il y a dedans, que l'on cache souvent dans un grand coffre-fort bien fermé. C'est l'œuvre du poète d'ouvrir le coffre-fort. Et elle exige ça des poètes. D'ailleurs, les poètes qu'elle a défendus, appréciés, aimés, c'est Pasternak, c'est Rilke, ce sont les grands du XXe siècle, dont elle est, elle aussi. Elle exige ça. Voilà, qu'il y ait une cohérence entre son être à l'intérieur et ce que l'on est dans la vie. Donc s'il y a souffrance intérieur, ça se voit, ça se sent. On ne fait pas comme si tout va bien. Et en même temps, elle dit qu'elle veut ne plus souffrir. Elle ne supporte pas qu'on exalte ça, la souffrance. Donc le spectacle, ce qui est choisi, c'est toute cette période heureuse, une période heureuse de sa vie, d'exil. Pratiquement le premier exil, celui de la Tchécoslovaquie. Elle passe par Berlin, mais c'est l'exil de la Tchécoslovaquie qui va être la première étape importante. Donc elle doit partir de Moscou, on est au début du siècle, les bolcheviks, etc. Elle doit partir, retrouver son mari, et là, elle va beaucoup écrire. Elle va avoir une bourse, la Tchécoslovaquie va lui attribuer une bourse pendant de nombreuses années. Et elle va aussi connaître l'amour, mais l'amour dans sa totalité, c'est-à-dire être proche de quelqu'un, de son âme, mais aussi proche physiquement, vraiment une histoire charnelle, une histoire totale. Donc c'est cette période-là que l'on va partager autour de cet amour qui va durer assez peu de temps, puisqu'il va durer même pas 6 mois, et qui va être porteur de beaucoup de textes et de ses plus grands et plus beaux poèmes, que sont le poème de la montagne et le poème de la fin.
Donc, en tout cas, elle était en phase avec un certain nombre de gens dont vous avez parlé, là, oui. Rilke et Pasternak, mais était-elle en phase avec son époque, alors? Parce que ce n'était pas si commun que ça, des gens qui parlaient de l'intérieur à cette époque, en fait.
Aussi, enfin, peut-être pas de cette façon-là. Déjà, sans doute, parce que c'est une femme, il faut le dire, et aussi parce que c'est donc difficile d'écrire, non pas d'écrire, mais d'être publié, de vivre de l'écriture. Difficulté. Donc dans la difficulté, on doit dépasser quelque chose. Elle est obligée de dépasser pour publier. Donc d'être encore plus proche, plus sincère et plus authentique. Et c'est en cela qu'elle nous, voilà, qu'elle nous émeut énormément et qu'elle nous parle à nous, parce qu'elle est authentique. Bon, alors on lui a reproché des choses politiques qui sont plus ou moins justes et finalement pas forcément intéressantes et qui s'avèrent être injustes. Sur le fait, parce qu'elle vient d'une famille aristocrate, donc elle était plutôt du côté des Blancs. Il s'avère qu'elle était plus c'était plus compliqué que ça. Elle est peut-être plus une anarchiste, voilà, que quelqu'un d'un côté ou de l'autre. Elle est du côté de la hauteur. Et elle dit à un moment donné, mais moi, je n'ai rien contre le communisme. C'est les communistes. Et en même temps, à un moment donné, elle va défendre haut et fort un certain nombre de personnes, etc. Donc, elle est quand même assez en marge de l'événement. Elle ne supporte pas les journaux, l'événementiel. Elle cherche une dimension beaucoup plus large et plus grande. Donc, il y a des choses qu'elle va passer à côté, sans doute. Ouais.
Donc, un grand événement en perspective pour les personnes.
Oui, c'est une belle rencontre. Marina Tsvetaeva, c'est une belle rencontre. C'est une nourriture. Il y a plein de choses différentes. Donc, il y a des correspondances déjà très différentes. Écrire à Rilke ou à Pasternak, ce n'est pas les mêmes correspondances. Par exemple, elle a une correspondance avec une amie tchèque quand elle sera en France. Parce qu'elle va être exilée plus de à peu près 14, 15 ans en France. Et elle va correspondre avec une amie tchèque pendant toute cette période-là. 15 ans de correspondance. Voilà, je vais en lire quelques lettres, qui est un tout autre domaine, qui est beaucoup plus proche des choses pratiques et quotidiennes, et en même temps de ce qu'elle écrit. C'est pas du tout sur la passion, pas du tout sur l'amour, c'est autre chose. Parce que ce qui la motive, c'est l'amour. Tout tourne autour de... Beaucoup de choses tournent autour de ça. Et quand elle n'a pas l'amour, quand elle n'a plus l'amour, il manque le moteur, il lui manque le carburant. C'est vraiment le carburant. Sûrement un manque, quelque chose à combler. On ne va pas faire de la thérapie, là, mais bon. Voilà, une recherche, en tout cas, d'amour. Oui, c'est quelqu'un à rencontrer, à lire, bien entendu, à lire hein, et à relire.
Mais je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à mes questions de tout à l'heure, à savoir, était-elle en phase avec son époque, alors ?
Mais ce que je disais, c'est que elle était en avance sur son époque. C'est-à-dire ce qui s'est révélé être donc voilà, quelque chose sur Staline, Lénine, elle avait déjà... évidemment, il y avait peut-être un peu de mépris par rapport au peuple. Moi, c'est ce que j'ai un petit peu ressenti dans sa jeunesse, prime jeunesse, et en même temps, très proche, parce qu'elle vivait, elle a vécu aussi à la campagne, son enfance avec les paysans, etc. Donc, il y avait aussi une proximité avec les gens. Mais il y avait tellement une exaltation de l'esprit qu'elle était forcément en décalage. Elle n'était pas forcément préoccupée du partage... avec ceux qui n'avaient rien, mais spirituellement, intellectuellement, en tant que femme, en tant qu'être humain, pas en tant qu'être politique, elle était vraiment de son époque, en avance sur son époque. Elle avait du mal avec les contemporains quand même. Elle disait toujours qu'elle, elle n'était pas de ce monde-là. Et pour ça, je dis qu'elle était en avance. Par exemple, elle dénonçait le monde matériel, la consommation. Elle dénonçait déjà la consommation ou le monde de l'image au début du XXe siècle, alors que c'était le début. Mais déjà, elle voyait là une perte de l'humanité. Alors, bon, on peut dire qu'elle était décalée, oui.
Elle a été publiée.
Bien sûr. Elle a été publiée, elle est très, très vite reconnue en Russie quand elle était jeune. Et en même temps, comme elle était en admiration pour les autres, parfois, bon, elle ne s'est pas mise en avant. En même temps, bon, elle avait aussi son carafon, ça ne devait pas être tout à fait facile, elle était entière. Ben, elle a été reconnue par ses pairs. Pasternak, donc grand poète reconnu de son vivant, a tout de suite dit que c'était quelqu'un. Voilà. Ensuite, en France, elle s'est marginalisée de l'immigration russe, qui était très forte. Hein,
elle est venue en France, donc.
Oui, 15 ans, en 1925. Donc, elle a eu beaucoup de mal là, avec ses contemporains russes. Et là, elle a pratiquement pas été publiée. Donc en France, elle a beaucoup écrit d'articles, beaucoup de choses écrites sur les autres, même sur des peintres, sur les autres, sur des auteurs. Là, ça, des articles ont paru. Mais en France, elle a pratiquement plus écrit de poésie. Elle a écrit des récits. Aussitôt après sa mort, on a redécouvert, on a tout sorti. Ça publie, ça n'arrête pas. Il y a un musée de Tvetaeva en Russie. C'est un monument pour les Russes.
Comment allez-vous, en quelques textes, montrer un petit peu la richesse de ce que propose cette femme ?
C'est un pari, c'est une première, c'est une création, donc on ne peut pas présager. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que quand on est en présence de quelqu'un de grand, on pourrait dire comme Godard dit, une image, le cinéma. Avec elle, comme on est en présence d'un grand, avec un texte, un poème, une lettre, on a quand même la taille de la personne. Par contre, ce qu'on n'aura pas, c'est sa dimension, sa plurielle. C'est une mère aussi, c'est une amoureuse, c'est quelqu'un qui va défendre des poètes haut et fort, la traduction, etc. Toutes ces dimensions, on ne les aura pas toutes. Mais donc il y a un choix qui est fait, donc, comme je disais, une période, un amour en particulier. Et autour de cette période et autour de la Tchécoslovaquie, de cet exil-là. Moi, ce qui me concerne, c'est réussi si ça donne envie d'aller vers elle. Si après, on se dit, tiens, oh là là, je vais... Ah ben, du coup, j'ai envie de la lire. Souvent, c'est ce qu'on nous dit après les lectures. Là, on a réussi notre coup. C'est comme au spectacle, quand on a donné envie de faire quelque chose. Si après, ou de la lire, ou d'écrire, ou d'être plus authentique, ben là, on a gagné notre pari. La présence de la musique est importante. Et là, je laisserai la parole peut-être à Brigitte pour en parler, du travail qui est fait, de cette rencontre entre du texte et de la musique.
En tout cas, moi, je peux dire qu'elle me touche et elle me travaille, et le jour et la nuit, depuis que je la lis, puisque j'ai découvert Marina Tsvetaeva grâce à Isabelle. Et c'est vrai que ça... On remonte quelque peu le niveau de vibration avec cette poétesse. Et voilà, ça bouscule, ça remue, on a envie d'en parler, on a envie de partager, on va vers des lectures aussi parallèles. Et je suis contente aussi parce que finalement, Scriabine, que je connaissais assez instinctivement, voilà, je vais aussi lire sur Scriabine, je découvre aussi qu'il a une vie... en avance sur son temps avec des projets complètement...
C'est un précurseur lui aussi.
C'est un précurseur.
Elle s'en est une, mais lui, en musique, il ouvre une voie aussi.
Voilà, il a eu envie de faire des... Il a eu un projet qu'il n'a pas pu mener à terme, de mélanger à la fois la musique, la lumière, les odeurs, et donc une dimension aussi spirituelle. Donc c'est vraiment... voilà, c'est quelque chose qui nourrit, qui bouleverse. Pour moi, ce qui est aussi difficile, c'est d'amener des bribes de Scriabine hein, dans notre travail, pouvoir soutenir la lecture, comment je me place, comment je trouve un rythme, une musicalité juste par rapport à ce projet-là.
Vous avez d'autres projets en cours, Brigitte et Isabelle ou...
Nous deux, on a pas mal de discussions et d'échanges. Pour l'instant, on est au présent sur cette chose-là qui nous prend pas mal d'énergie.
Avec le souhait quand même de faire
notre
tourner
souhait,
le premier
c'est voilà, c'est de diffuser ces deux grandes choses qu'on a fait. C'est curieux d'Isabelle Pinson, qui est, j'irais presque à l'opposé de celui-là, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus léger.
Sur l'amour.
Mais on est encore sur l'amour, oui. Donc là, voilà, on a le souci de diffuser notre ces deux grosses choses qu'on fait, parce qu'on le fait vraiment avec beaucoup de, conscience. Et voilà, c'est pas simplement elle se met au piano, donc c'est comment la musique, qu'est-ce qu'elle raconte la musique, pourquoi elle est là, à quel moment elle intervient, quel choix on fait. Donc on répète beaucoup.
Depuis un bout de temps, depuis combien de temps ?
Là, pour celui-ci, bon, moi, j'ai commencé à faire mes choix de texte à partir de mars, mais j'ai réellement travaillé sur l'été. Brigitte, elle a travaillé tout cet été là sur Scriabine, une vingtaine de préludes pour en choisir une quinzaine pour finalement travailler 6-7 préludes.
Il y a ça qui est quand même important, c'est lecture musicale, c'est pas simplement un bout de texte, un bout de musique. Parfois on fait ça, mais là c'est vraiment un travail d'incise. Donc c'est vraiment des choses brèves et qui sont là pour... Ça demande du temps pour choisir, pour être juste par rapport aux interventions musicales.
Voilà, parce que la musique, elle a plusieurs statuts. Elle permet de respirer, de faire respirer le texte qui est aussi son mais aussi sens. Donc on ne peut pas être dans le sens et de l'écoute sur une heure et quart permanente. Aussi, nous élève aussi. La musique élève et porte la voix du texte, fait résonner, donne de l'écho à ce qui est dit. Parfois, il y a légèrement une opposition avec les états, les émotions qu'on a dans le texte, qui permet de mesurer que ce qu'on entend, c'est plus que ce qui est dit. Ça résonne.
Est-ce que vous seriez d'accord pour nos auditeurs, afin de les appâter, de nous faire un petit extrait ? Et je précise que ce n'est pas le bon piano, donc ce sera de meilleure qualité dans l'avenir.
Bon, prenez le 26, ça sera voilà, un piano loué. Là, c'est un piano qui a été gentiment prêté au théâtre, mais qui a eu des petits soucis de santé. Samedi 22 septembre 1923, mon très cher, ce n'est pas votre demande que je satisfais, mais ma soif. Je vous écris et suis heureuse d'être seule en cette heure. Voilà que d'en bas montent les premiers accords de l'horloge. 7. 7 heures. Votre heure de toujours. Harlequin. Voilà comment je vous appelle. Premier harlequin d'une vie où je ne compte plus les pierrots. Pour la première fois, j'aime un homme heureux, et pour la première fois peut-être, je cherche le bonheur, non la perte. Je veux prendre et non donner, être et non disparaître. Je sens en vous une force, cela ne m'était jamais arrivé. La force d'aimer, non pas toute moi, un chaos, mais le meilleur de moi, l'essentiel en moi. Mon ami, je suis toute à toi. Plus tard nous rirons, nous parlerons, nous nous endormirons et quand la nuit dans mon sommeil je t'embrasserai, tu te rendras immédiatement et tendrement vers moi, sans même ouvrir les yeux. Octobre 1923, le matin, mon tout proche. Hier, j'ai aimé notre séparation. Se rencontrer est plus difficile que se séparer. Dans la séparation, je nous retrouve, et moi et l'autre, et trouve les mots nécessaires, et l'absence nécessaire de mots. La séparation est un complet empire. Il y a quelque chose de plus grand que les mots. Par exemple, hier, cette halte sous les arbres, c'était plus juste que les mots, plus éternel que les mots. Avec les mots, nous ne faisons que tâter le fond. Les mots entraînent, comme des rimes, particulièrement moi qui connais leur vie. nous égarons dans les mots. Vous, non, moi, oui. Ce sont de profondes ténèbres et parfois d'effroyables bancs de sable. Quelquefois, j'ai la bouche desséchée par les mots, comme si j'avais avalé le Sahara.
Merci à vous deux de m'avoir accordé cette interview. Et donc, je répète les dates. C'est donc le dimanche 26 à 21h, un spectacle de...
Marina Tsvetaeva, sténographe de lettres. C'est une production Les Envoliers, qui est l'association, avec Brigitte Gardet et Isabelle Mounier.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.